Bienvenue sur le podcast de Positive Workplace, le label RSE Made in France. Dans ce podcast mensuel, nous aborderons les grands sujets de société et mettrons en lumière les solutions concrètes pour résoudre les principales problématiques sociales, sociétales et environnementales. N'hésitez pas à partager nos émissions à vos proches et à vous abonner à notre chaîne. Bonne écoute! Bonjour Florent Marcou, nous sommes aujourd'hui sur ce premier podcast de Positive Workplace. Surfrider, depuis plus de 25 ans, protège, sauvegarde et met en valeur les océans et toute la population qui en jouit. Elle agit au quotidien pour lutter contre les atteintes à l'environnement littoral et à ses usagers. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir son président, directeur général, Florent Marcou. Florent Marcou, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter succinctement ?
Bien sûr, bonjour et merci de m'accueillir pour ce podcast. Donc, Florent Marcou, oui, moi j'ai 48 ans. Je suis le directeur général de Surfrider depuis 3-4 ans. J'ai intégré cette structure il y a 8 ans. Mon parcours en quelques mots, j'ai envie de dire le fil conducteur, c'est toujours plus facile de le dire d'ailleurs a posteriori, ça serait le développement sociétal, c'est comme ça que je le dirais. J'ai commencé ma carrière à Buenos Aires, en Argentine, sur des projets d'eau potable et d'assainissement dans les bidonvilles et les quartiers défavorisés. Évidemment très instructif, très formateur également. J'ai fait ça pendant 4-5 ans, ensuite je suis rentré en France et j'ai commencé à travailler dans le secteur associatif. Donc ça fait très longtemps que je suis dans le secteur associatif. J'ai démarré cette partie-là de ma vie et de ma carrière au sein d'une organisation internationale qui s'appelle Aider Action et qui œuvre pour l'accès et la qualité de l'éducation dans le monde. J'ai eu différentes fonctions de fundraising, de partenariat, de grand donateur, de direction, de directeur France. Hein, j'en suis devenu directeur France pendant 4 ans. Et j'ai terminé en mettant en place quelque chose d'assez novateur pendant le secteur associatif à l'époque. C'était une démarche qualité, hein, donc une démarche d'amélioration continue au sein de la direction internationale. Voilà, et puis j'ai ensuite rejoint l'équipe de Surfrider, donc du développement, on va dire, humain. Je suis passé au développement environnemental, évidemment le tout étant, bien entendu, intrinsèquement lié.
Absolument, très lié. Alors, Florent, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, présenter les activités de Surfrider ? Alors, on a tous l'habitude d'être confronté à ces bénévoles, hein, généralement, qu'on voit sur les plages nettoyer nos déchets. C'est comme ça, entre guillemets, que le grand public vous connaît. Mais Surfrider, c'est pas juste du ramassage de déchets, c'est aussi d'autres activités. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, présenter plus en détail au grand public aujourd'hui les activités de votre organisation?
Oui, bien sûr, effectivement, ça va au-delà de ces collectes de déchets sur les plages. Alors, on structure notre activité autour de trois grands enjeux sociaux environnementaux. Je pense que c'est d'abord ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'on se bat par rapport à la problématique des déchets aquatiques. Ça, c'est historique. On est né il y a plus de 30 ans aujourd'hui et on est né de cette problématique-là, et particulièrement des déchets plastiques. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus, qui reste un fléau majeur de notre société contemporaine, passée, contemporaine et malheureusement encore future également. Donc les déchets aquatiques et particulièrement déchets plastiques, ça c'est une chose. Le deuxième sujet, c'est celui de la pollution des eaux dans son interaction avec la santé des usagers. Donc quelles sont les atteintes à nos eaux de baignade notamment ou d'activités nautiques, différents types de pollution, et quels risques cela peut représenter bien sûr pour les écosystèmes d'un côté, mais également pour l'être humain et notre santé. Le troisième sujet étant celui de l'aménagement du littoral, et particulièrement et de plus en plus dans son interaction avec le changement climatique. Alors évidemment, le changement climatique est en interaction avec toutes nos autres combats ou nos autres problématiques. Et particulièrement sur l'aménagement, pourquoi ? Historiquement, sur cette problématique-là, on avait tendance à être un peu dogmatique. On n'aime pas trop ça, Surfrider, on essaye de rester pragmatique, mais sur l'aménagement du littoral, on avait tendance à s'opposer à tout projet d'aménagement du littoral. Avec le changement climatique, faut être clair, alors, il y a depuis longtemps, les transformations ont démarré il y a bien longtemps, mais nous, c'est une thématique relativement nouvelle pour Surfrider, il y a 4-5 ans hein, ou 6 ans. Et en fait, ce changement climatique nous impose aujourd'hui à définir et à mettre en œuvre des stratégies, et derrière ces stratégies, des projets d'aménagement spécifiques, que ça soit, on a tous entendu parler de l'atténuation au changement climatique ou d'adaptation au changement climatique. Et tout ça vient bouleverser nos littoraux, pas que nos littoraux, mais notamment nos zones côtières. On n'est pas vraiment préparé à ça. Tout ça, évidemment, va avoir un impact là aussi sur nos écosystèmes ou sur nos usages et les usagers que nous pouvons représenter. Et l'idée n'est pas de s'y opposer dogmatiquement, mais bien plus d'accompagner cette transformation qui est inévitable et de minimiser les impacts néfastes sur notre espace côtier. Donc voilà les trois grands sujets sur lesquels on intervient. On a quelques sujets transversaux, notamment un que je citerai parce qu'il est quand même très important et on met beaucoup d'énergie sur ce sujet-là, c'est celui du transport maritime. Pourquoi transversal ? Parce que le transport maritime, c'est à la fois des déchets avec les pertes de containers sur les porte-containers. C'est à la fois des pollutions chimiques, des pollutions de nos eaux et de nos océans à travers des dégazages sauvages, des marées noires, etc. Et puis, c'est aussi des problématiques d'aménagement du littoral, de ports, d'extension de ports, de rejet de CO2, de soufre, donc de contribution au réchauffement climatique. Il faut savoir quand même que 90% des marchandises sont transportées par transport maritime. Voilà. Donc ça, c'est comment on structure notre activité. Et après, comment on travaille, c'est un peu ce que vous avez évoqué. On a une approche que moi, je qualifie de systémique. C'est-à-dire qu'on va, d'un côté, avoir un travail qu'on pourrait qualifier plutôt de conservation, identifier des pollutions, identifier des atteintes à l'environnement, identifier des risques avérés sur telle ou telle zone de notre espace européen, et là, d'essayer d'apporter une solution. Ce travail-là va généralement démarrer par une phase de dialogue, de concertation, d'identification réellement de la problématique. Si le dialogue n'est pas suffisant, on va pouvoir monter un petit peu en puissance sur de la mobilisation citoyenne, de la manifestation, de la pétition, et ça peut aller jusqu'à des attaques en justice. On a l'agrément pour rester en justice. J'ai des juristes en interne, et on va, par exemple, systématiquement se porter partie civile et combattre les pollueurs des océans dans le transport de la maritime, notamment, par exemple. Donc ça, c'est la partie plus militante, plus activiste. On s'appuie pour ça sur 50 équipes bénévoles dans 12 pays européens qui apportent finalement cette expertise.
Justement,
empirique.
En termes de chiffres, Surfrider, c'est combien de bénévoles, combien de salariés, dans quelle proportion vous avez à l'échelle nationale, voire européenne et internationale?
Oui, alors, moi je suis le directeur général de Surfrider Europe. Surfrider Europe, aujourd'hui, c'est 60 salariés, c'est environ 2000 bénévoles, dans 50 équipes bénévoles structurées, permanentes, qui sont aujourd'hui présentes dans 12 pays européens. Mais c'est aussi 15 000 adhérents donateurs et c'est aussi 250 000 sympathisants, c'est-à-dire des personnes qui nous suivent dans nos différents médias, dans nos réseaux sociaux, qui sont intéressés par les problématiques et qu'on peut activer ou mobiliser aussi en fonction de ce qu'on peut réaliser. Mais Surfrider Europe appartient à une famille plus globale et plus internationale de Surfrider. Surfrider est né aux États-Unis en 84, en Californie plus exactement. Et aujourd'hui, on a des Surfriders donc US, Europe, mais on a aussi Surfrider au Japon, en Australie, au Canada, en Argentine, au Maroc, au Sénégal, avec des demandes aussi qui s'accélèrent, j'ai envie de dire, pour que ce mouvement grandisse, et c'est tant mieux. Voilà quelques chiffres. Donc en tout cas, juste si je peux faire, on a cette partie conservation, et une grosse partie de notre travail, c'est l'influence. Comment on contribue à faire évoluer notre société et nos sociétés pour que demain, il y ait moins d'atteintes à l'environnement. Et là, on va interagir avec les trois grandes parties prenantes de toute société, à savoir le cadre réglementaire, donc la puissance publique, les institutions, que ce soit au niveau local, régional, national, européen, voire international aussi, par exemple, encore une fois, par rapport au transport maritime, puisqu'il y a des gouvernances internationales à travers l'OMI. Donc c'est un travail de lobby, lobby d'intérêt général, mais ça reste du lobby. Nous, on accepte ce mot-là, même si certaines ONG préfèrent parler de plaidoyer. On fait le même type de lobby vis-à-vis du secteur marchand. Donc on a un vrai travail, on estime avoir un rôle et une responsabilité aussi par rapport au secteur marchand, avec trois façons de voir les choses. On va bien sûr être dans un rôle classique des ONG de dénonciation, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, il y a des pratiques industrielles, il y a des filières ou des entreprises qui sont des entreprises du passé ou des filières ou des pratiques du passé qui doivent stopper, et donc on va dénoncer ça. Mais on pense aussi avoir un rôle et une responsabilité pour accompagner la transition, accompagner la transformation de celles qui reconnaissent leur impact et qui s'insèrent et qui s'engagent réellement et sincèrement avec ambition dans un plan de transformation. Et là, on pense qu'on a notre rôle à jouer aussi. Oui, alors
sans forcément citer de nom, mais expliquer un peu quel type de transition vous accompagnez sur ce type d'activité.
J'ai beaucoup parlé de transport maritime, je vais rester cohérent, c'était pas prévu comme ça, mais ça va devenir le leitmotiv de ce podcast. On a créé un label qu'on appelle Green Marine Europe.
Tout à fait, je crois trois entreprises,
un label qu'on a créé.
Trois transporteurs qui ont été labellisés, je crois, l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça.
Non, il y en a eu, là on en est à une vingtaine en 2022 ou 25 qui vont être labellisés, notamment avec CMA, CGM, pour ne citer qu'eux, mais c'est parce que voilà, ils sont très connus et très, très influents, donc on est ravis qu'ils rejoignent cette démarche-là. Mais donc c'est un label qu'on a créé avec les armateurs, pour les armateurs. Donc là, on a bien dialogué avec une filière qui, bien sûr, a un impact négatif sur l'environnement, c'est difficile, mais le but n'est pas de stopper le transport maritime, mais bien de l'améliorer, de contribuer à son amélioration, à sa transformation. Et donc, on va balayer avec eux, on a construit des exigences, des niveaux d'exigence de 1 à 5 sur toutes les problématiques, que ce soit gestion des déchets, que ce soit construction, que ce soit rejet de CO2, d'autres émissions, mais aussi les bruits sonores sous-marins, mais aussi le démantèlement des navires. Bref, on a essayé d'attaquer un petit peu l'intégralité des problématiques et de donner des ambitions. Et voilà, quand ils rentrent dans cette labellisation, chaque année, ils doivent progresser. Donc, ça permet de les challenger, voire de créer une certaine émulation entre eux pour progresser année après année.
Si on peut...
Voilà
si
un exemple. Donc, ça, c'est sur le...
Si on peut reprendre...
Et juste pour boucler le tout, excusez-moi, pour boucler le tout, c'est simplement, évidemment, il y a le citoyen, ne l'oublions pas, tous ceux qui nous écoutent, vous, moi, on est tous des pollueurs en tant qu'individus, et donc on a aussi ce rôle et cette responsabilité d'accompagner cette transformation aussi à un niveau individuel. Alors là, on est sur des logiques d'information, de sensibilisation, de pédagogie, d'éducation, pour qu'on transforme un petit peu notre quotidien, notre
façon. C'est là où je voulais revenir. Quel est le problème aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec des bouteilles d'eau ou des produits chimiques dans la mer ou dans les eaux en général?
Alors, on a une approche systémique parce qu'on pense que le problème il est systémique. Donc c'est un tout déjà. Le problème vient de tout le monde. Donc ceux qui vont stigmatiser telle ou telle partie prenante de la société, à mon avis, ils vont pas se tromper parce qu'il y a un problème qui vient de là. Mais je pense que la solution sera collective et on a tous notre part à jouer, toute notre contribution à jouer dans notre rôle et dans notre espace, dans notre responsabilité propre. Donc écoutez, on a été dépassé. La pollution plastique, selon moi, j'aime bien le présenter comme ça, c'est un peu Frankenstein, quoi. C'est-à-dire qu'on a créé un monstre qui nous a échappé. Voilà. Et on a créé quelque chose qui était absolument fabuleux. La matière plastique nous a apporté, dans nos sociétés modernes. C'est absolument phénoménal. Et on reconnaît encore une utilité du produit plastique dans des enjeux sanitaires, par exemple, des choses comme ça. Bien entendu. Mais la plus grosse aberration, c'est qu'on a créé l'usage unique. C'est ça la grosse aberration de l'être humain. Donc on a créé on produit à tire-larigot des outils, des produits qui vont être utilisés 20 secondes, 2 minutes, 20 minutes, une journée maximum. Et là, évidemment, ça nous envahit, ça nous dépasse, on ne sait plus quoi en faire. Et après, comment ça peut se retrouver sur nos plages, dans nos océans, il y a plein de facteurs. Ça va être évidemment des incivilités, ça peut démarrer par ça. Ça s'est un peu calmé, mais on continue de voir des gens en voiture qui baissent leur fenêtre et qui balancent par la fenêtre de la voiture les déchets de ce qu'ils viennent de manger. Ça arrive encore. Il y a des décharges sauvages. Certaines, il y en a peut-être moins qu'avant, mais certaines anciennes, mais qui ressortent avec des inondations, des crues qui font ressortir des anciennes décharges sauvages ou des vraies décharges qui avaient été un petit peu ensevelies ou voilà ou stoppées et cachées. Et ben quand il y a des crues, là, ça se déverse massivement dans les ruisseaux, les rivières, les fleuves et évidemment au final l'océan. Il y a des pollutions invisibles, y compris dans le plastique et dans les déchets plastiques. On a ce qu'on appelle les microplastiques. Et il y a des microplastiques qui sont intentionnellement ajoutés. C'est quoi la différence? Quand vous roulez en voiture, il y a des microplastiques, c'est des déchets des pneus qui se font. Bon, là, c'est pas intentionnellement ajouté, c'est juste qu'on a un pneu, effectivement, l'usure fait que ça génère du microplastique. Mais dans tout un tas de produits cosmétiques, du dentifrice, du détergent qu'on va utiliser pour sa maison, pour nettoyer sa maison, du savon, etc. Il y a des particules, des microparticules, du microplastique qui est parfois intentionnellement ajouté. Alors il y a eu une directive au niveau français il y a quelques années, tant mieux, mais c'est pas encore à l'échelle européenne. L'échelle européenne a mis en place une directive nouvelle en 2019 et on en est ravis et on a beaucoup poussé pour ça, pour interdire une dizaine de plastiques à usage unique au niveau européen globalement. Mais par exemple, les microplastiques sont en dehors du scope encore. Donc ça, vous voyez que simplement dans des pratiques quotidiennes, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'envoyer du plastique en continu dans l'océan qui intègre la chaîne alimentaire et que nous, derrière, on ingurgite, parce que vous savez qu'on a tous du plastique dans notre corps aujourd'hui, qu'on ingurgite et c'est ce qu'on a jeté.
Et qu'est-ce que dans les collectes que vous effectuez sur les bords des rivières et sur les rivages et dans les mers, sur les côtes, quels sont les... Globalement, quels sont les tonnages que vous êtes capable de récupérer? Je ne sais pas si vous avez ces chiffres-là. Quelles sont les plus grosses problématiques que vous rencontrez? C'est quoi le déchet type qu'on retrouve dans nos plages ou dans nos rivières?
Oui, alors on élabore d'ailleurs, en fait, quand on fait ces collectes de déchets, c'est pas tant pour nettoyer les plages qu'on le fait, ça me permet de clarifier ça. Je pense que c'est très important parce que les collectivités quand même se saisissent de cette problématique-là et nettoient eux-mêmes les plages. Ils le font généralement assez bien. Donc c'est plutôt un outil de sensibilisation. Les gens viennent sur le terrain, vivent une expérience, constatent ce qui se passe, et parfois s'étonnent et réalisent qu'ils en sont responsables. Pratiquement à chaque fois, et ça fait partie de ce qu'on retrouve beaucoup, souvent on me dit « mais pourquoi on retrouve tout de bâtons de sucette sur cette plage-là » Non, ce ne sont pas des bâtons de sucette, ce sont des cotons-tiges que peut-être un citoyen a jeté dans ses toilettes 20 km en amont, et qui a parcouru les tuyaux, qui est passé à travers les grilles des stations d'épuration, et qui finit sur nos plages. Donc ils se rendent compte, ils vivent ça, et forcément ça a un impact en termes de changement de comportement derrière plus important. Donc ce qu'on retrouve, Du plastique, c'est 80-90% de ce qu'on retrouve, ça sera de la matière plastique de tout type, beaucoup de fragments, parce que faut savoir que le plastique, une fois dans l'océan, sous l'effet des UV, donc du soleil, du sel, etc., va se fragmenter. Et donc, ça va être des bouts d'emballage plastique, ça va être des bouchons de bouteilles plastiques, ça va être des bouteilles plastiques en elles-mêmes, notamment des petits contenants, hein, on lutte particulièrement contre ça. Les mégots, c'est un fléau, c'est catastrophique. Un mégot, ça pollue 500 litres d'eau, faut quand même le savoir. Et je sais pas, j'ai pas les chiffres qui vous donnent le tournis. Donc donc c'est vraiment incroyable. Donc c'est quand même du plastique et on est sur une logique un petit peu de, c'est les tonneaux d'Anaïde, quoi. Hein, ça ne finit pas. Donc en fait, vous nettoyez un jour, il y a une forte houle et ça revient parce qu'en fait, tous les déchets sont dans l'océan, tous les déchets sont au fond de l'océan. 90% des déchets tombent au fond de l'océan. 90%. Donc ceux qui vous disent qu'ils vont nettoyer l'océan, aujourd'hui pour nous c'est un leurre. C'est un leurre parce qu'ils vont s'attaquer au mieux à 10% et encore 10%, je crois que je suis très gentil, c'est plutôt 5% qui est en surface. Et puis il y a tout ce qui est de toute façon déjà fragmenté, qui est déjà dans la chaîne alimentaire, etc. Voilà. Donc aujourd'hui il faut qu'on ait un robinet ouvert en permanence de déchets qui se déversent dans l'océan. Il faut qu'on arrive à le fermer.
Une initiative. Hein.
Ça va passer par des cadres réglementaires.
Qui existent au niveau réglementaire notamment. On a eu la loi AGEC qui a été votée en février 2020, il me semble, qui vient d'être mise en application en ce début d'année. Donc ça reste quand même des bonnes nouvelles, non, ce genre de loi.
Absolument. Absolument. Il y a une vraie... je vous dis, nous, on est nés de cette problématique-là il y a plus de 30 ans. C'est la problématique des déchets aquatiques. Moi, je suis arrivé à Surfrider il y a 8 ans, j'avais un peu l'impression, ce qui était faux évidemment, mais j'avais quand même un peu l'impression qu'on était tout seul à se battre sur cette problématique-là. Il y a vraiment eu un changement sociétal, il n'y a pas longtemps, hein, mais il y a 4-5 ans. C'est-à-dire que c'est devenu une vraie préoccupation médiatique, c'est à l'agenda médiatique, c'est à l'agenda politique, et il y a eu des avancées à partir de 2015, à peu près, hein, le switch il s'est fait là, en France, mais aussi à l'échelle européenne. J'en ai parlé tout à l'heure, en 2019, avec une mise en application à juillet 2021, mais c'était une directive européenne pour interdire une dizaine de produits plastiques à usage unique. Alors que 2015, 4 ans avant, c'était la première directive qu'on avait obtenue, c'était, elle invitait les États membres à réduire certains sacs plastiques à usage unique. Donc, autant vous dire que là, on n'était pas du tout d'accord et très content. Mais en 4 ans, vous voyez, il y a vraiment eu une évolution très positive. La loi AGEC, pareil, tout ce qui est économie circulaire, etc. On a un point d'attention, nous, dans nos revendications, qui est très important, je pense que les gens entendent. On ne réglera pas la problématique des déchets, et notamment des déchets plastiques, par le recyclage, ou uniquement par le recyclage. Donc nous, on se bat contre ça, parce que les lobbies du plastique aujourd'hui, c'est le message qu'ils font entendre. On partage la même ambition, parce que eux-mêmes vont dire « il ne faut plus de plastique dans l'environnement », ça on est d'accord. Mais leur seule solution aujourd'hui, c'est de dire « on va tout collecter, tout trier et tout recycler ». Ça, pour nous aujourd'hui, c'est un leurre. On est incapable aujourd'hui, et la production reste encore de façon exponentielle en croissance. Donc non, il y a un vrai enjeu de réduction à la source. Et ça, c'est vrai d'ailleurs pour toutes les problématiques de pollution qu'on pourra retrouver dans l'océan ou ailleurs. Il faut qu'on aille vers un monde plus sobre en tout, et notamment sobre en consommation de ressources et de matières premières. Il faut qu'on réduise donc drastiquement notre production et donc notre consommation de matières plastiques notamment, et d'une façon générale de plein d'autres choses, comme l'énergie, si on voulait parler des problématiques énergétiques.
De toute façon, la production de plastique est directement liée à la production d'énergie pétrolière, justement. Donc, on parlait de...
On est dans la pétrochimie.
On parlait justement de loi AGEC et de directive. Il y en a une, il me semble, qui vous parle tout particulièrement, c'est la directive européenne des eaux de baignade. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Florent Marcou, quel est l'historique de cette directive et quel est votre positionnement sur ce sujet qui vous touche particulièrement?
Oui, c'est un sujet qui nous touche, puis il est vraiment d'actualité, donc je pense que c'est intéressant de partager ça avec nos auditeurs. Cette directive eau de baignade, c'est une vieille directive en fait européenne qui existe depuis bien longtemps, depuis 40 ou 50 ans même, je pense, qui a eu une première révision en 2006. C'était une véritable victoire déjà pour Surfrider à l'époque, qui s'était penché sur la problématique de la pollution de l'eau, hein, des eaux de baignade, et qui avait obtenu cette directive-là, qui disait quoi, en tout cas dans cette révision, qui a demandé à tous les États membres de surveiller, de monitorer la qualité bactériologique des eaux de baignade, et donc d'en interdire la baignade si les niveaux n'étaient pas suffisamment bons. Hein, et il y avait donc des seuils à respecter sur deux bactéries qui sont suivies. Ça a permis réellement à nous de nous faire connaître, très sincèrement, parce que ça a été un gros sujet, ça a été très médiatisé à l'époque, on avait une carte qui paraissait dans le monde, enfin voilà, ça, les collectivités étaient inquiètes à chaque fois que notre carte allait paraître une fois par an, bref, on appelait ça les pavillons noirs comme campagne, puisque c'était en réaction au pavillon bleu qui décernait des bons points. Bah, nous, on disait, ouais, enfin, derrière le bon point, on peut vous dire qu'au niveau pollution bactériologique, ça y est pas. Bref. Et donc, derrière, les collectivités s'en sont saisies réellement. Elles ont investi dans des stations d'épuration, dans des bassins de rétention, dans tout un tas de choses pour améliorer la situation. Et la situation s'est améliorée. On le dit, on l'affirme. Certains peuvent vous dire que non. Si, c'est vrai. La situation bactériologique des eaux de baignade s'est clairement améliorée. Aujourd'hui, il y a des fermetures de plages. C'est pour ça que certains pensent que c'est pire qu'avant. Non. Aujourd'hui, il y a des fermetures des plages parce qu'on sait. Parce qu'on connaît les risques, que les communes le savent et donc peuvent anticiper et se dire je ne prends pas le risque de mettre mes concitoyens ou les touristes qui sont là chez moi en cette période d'été à problématique de pollution bactériologique et je ferme la plage pendant 12 heures ou 24 heures le temps que ça se brasse relativement. Ça c'est 2006. Mais il y a plein de limites à cette directive selon nous. La première chose c'est que c'est uniquement sur les eaux de baignade. Moi je représente une communauté qui est à l'eau toute pas que sur des eaux de baignade. On peut faire du surf sur des endroits où il n'y a pas de bain possible, où on peut faire de la plongée, où on peut faire du kite, etc., etc. Deuxièmement, la surveillance ne se fait qu'en période estivale, on va dire de mai à septembre, de juin à septembre ou octobre, ça dépend des zones. Nous, notre communauté, elle est à l'eau toute l'année. Et puis surtout, le troisième élément, c'est qu'il y a plein d'autres enjeux sanitaires liés nos océans, la qualité de nos océans. Aujourd'hui, les déchets aquatiques et les déchets plastiques, en présence de pollution, ne sont pas monitorés, ne rentrent pas dans les paramètres de cette directive. Les pollutions biologiques, les dérèglements de la biodiversité avec l'apparition d'algues, d'espèces invasives, plus ou moins toxiques, on en a eu cet exemple, par exemple, cet été, ici sur la côte basque, sur des algues qui sont plutôt d'origine tropicale, hein. Donc, faut le savoir, avec le réchauffement climatique, elles arrivent jusqu'à chez nous. Et également les pollutions chimiques. Alors là, nous, on y voit une véritable bombe à retardement. C'est-à-dire que, sachez-le, aujourd'hui, vous pouvez aller dans l'eau. Tous les indicateurs sont au beau fixe. On vous dit que c'est parfait, vous pouvez y aller. Mais en fait, personne ne sait s'il y a des métaux lourds et en quelle quantité et densité, s'il y a des résidus médicamenteux, s'il y a des pesticides, etc. Je peux déjà vous le dire, il y en a. Après, quelle est la densité de cette pollution chimique, de cette molécule chimique, cet espace-là donné et l'impact que ça peut avoir, ça, il n'y a pas. Donc, il n'y a pas, en tout cas, d'études épidémiologiques sur le sujet. Il y a une surveillance que fait...
C'est donc tout l'objet de votre plaidoyer.
Voilà. Exactement, d'un plaidoyer dans le cadre de la révision, parce qu'il y a une nouvelle révision de la directive européenne, là, en ce moment, qui a lieu. Et donc, on interagit. J'ai des équipes à Bruxelles. Je parlais des salariés tout à l'heure. Hein. J'ai des personnes qui sont dédiées à ça et qui sont basées à Bruxelles et qui interagissent au quotidien avec à la fois les eurodéputés, mais aussi des groupes d'experts pour essayer de faire avancer le cadre réglementaire dans un bon sens. Donc à la fois ça et à la fois on apporte de la donnée, de la connaissance sur le sujet.
Florent, si vous aviez un conseil à donner à nos éditeurs pour l'avenir et pour eux au quotidien, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil ?
Moi j'aime bien dire l'engagement. Engagez-vous. On a besoin de citoyens engagés. Alors il y a plein de façons de s'engager en fonction de vos disponibilités, de vos appétences, vos compétences, de comment vous vous sentez. Il ne faut pas forcément se faire violence non plus. Il faut être à l'aise dans cet engagement. Mais ça peut être évidemment un engagement associatif, en donnant du temps. Il y en a qui n'ont pas forcément de temps, ils ont de l'argent, ils peuvent donner de l'argent. Le secteur associatif a besoin et son modèle économique dépend beaucoup de cette générosité du public. Mais en s'engageant aussi politiquement, ça ne veut pas forcément dire rejoindre un parti, ça peut être rejoindre un parti, chacun fait ce qu'il veut, il est libre. Mais si à un moment vous n'êtes pas d'accord, pas content, bah c'est aussi, ça passe aussi par ça. Moi, j'ai envie de dire, c'est l'engagement, quoi. C'est l'engagement. Il y a plein de façons de le faire. Et nous, on a l'ambition à Surfrider de développer, d'animer le plus grand réseau européen de citoyens engagés pour la protection de l'océan. Donc, engagez-vous à nos côtés, avec plaisir.
Merci, Florent. Pour conclure ce podcast, nous souhaiterions savoir si vous avez une lecture à nous recommander ou un film à voir, peu importe, mais. Une référence, en tout cas, qui vous porte à cœur.
Oui, alors, on pourrait faire des références littéraires. J'ai notamment un livre de chevet dont je parle souvent, qui s'appelle La pitié dangereuse de Stefan Zweig, que je conseille à tous les lecteurs et tous les auditeurs. Mais j'irai pas là-dessus. Je veux donner quelque chose, je trouve, de très actuel, qui vient challenger et bouleverser un petit peu nos modes de réflexion, que je trouve intéressant. Alors les deux en un. La première chose, c'est d'aller sur un média en ligne qui s'appelle Bon Pote, qui est animé par Thomas Wagner, que je conseille énormément, qui vient nous challenger, je trouve, très régulièrement sur des sujets d'actualité et qui vient apporter un angle vraiment de réflexion, je trouve, intéressant, qui porte beaucoup les messages de sobriété dont j'ai pu parler tout à l'heure en parlant des déchets, mais c'est vrai globalement, hein, comme on le disait aussi sur l'énergie. Et notamment dans ce média, mais vous allez le trouver aussi partout ailleurs, j'aime bien l'économiste qui s'appelle Timothée Parikh, qui a conceptualisé beaucoup les enjeux ou la théorie de décroissance, le concept économique de décroissance. Alors moi, à titre personnel, j'aime pas trop ce mot-là, parce que je trouve que le mot n'est pas bon, parce que le mot fait peur. Donc je pense qu'il faut pas qu'on utilise ce mot-là. Mais en l'occurrence, par contre, le concept qu'il y a derrière et la façon dont Timothée Paré qui l'explique. Et donc il y a une interview de lui notamment dans Bon Pote, mais il y a plein de podcasts aussi où on peut écouter Timothée Paré. Vraiment, je le conseille, c'est très intéressant et très instructif.
Merci beaucoup Florent Marcoux. Je terminerai ce podcast en rappelant que vous avez récemment été labellisé RSO Positive Workplace, et dans le cadre de cette labellisation, les enquêtes ont été envoyées auprès des salariés, auprès des bénévoles, des partenaires, etc. Et les verbatims qui sont remontés à grand volume ont été engagés, responsables, passionnés, respectueuses et solidaires. Et je trouve que votre témoignage a été assez représentatif de l'ensemble de ces valeurs. Donc merci Florent pour votre intervention, et à très bientôt à nos éditeurs pour notre prochain podcast.
Merci à vous.